Bonjour Pere Costa.
Demain dehors.
Matrier potse gons bohonek de Hanval gons okitanek, mais on va faire l'interview en français aujourd'hui. Vous êtes directeur des RPS, Région et Peuples Solidaires, en visite à Lorient de passage pour présenter le congrès qui va se dérouler dans la deuxième quinzaine d'août. Un congrès comme tous les ans, mais un petit peu, disons, un petit peu incertain vis-à-vis de la situation sanitaire actuelle.
Incertain, non, je dirais que nous on est certain de l'organiser d'une façon ou d'une autre. Bon, on espère évidemment qu'il n'y aura pas une dégradation sanitaire trop importante, et que surtout il n'y aura pas reconfinement. Si tant est ça devait arriver, on a décidé de façon de conserver l'événement avec une diffusion par internet. Mais je suis absolument confiant et je n'ai aucune crainte sur le maintien de l'organisation physique de notre université l'été.
Comment on fait aujourd'hui en France pour intéresser un maximum de personnes et notamment les gens qui ne sont pas forcément, disons, acquis à votre cause ou qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs que les vôtres, intéresser les gens sur des thématiques totalement locales, comme par exemple davantage de délégation des pouvoirs pour les régions. Comment est-ce qu'on parle aux gens? D'ailleurs, vous leur dites quoi en ce moment?
Un projet politique ne peut réussir que s'il est en phase avec la société et l'actualité. C'est assez terrible, mais je dirais que le projet régionaliste, fédéraliste que l'on porte avait un écho relativement faible de la société jusqu'à il y a encore peu d'années. Mais on constate d'abord que depuis une dizaine d'années, nous sommes sur une phase extrêmement positive où on progresse d'élection en élection. Et malheureusement, je dirais, la crise sanitaire et la gestion par la France, qui est un État centralisé, nous donne raison, à savoir qu'un État centralisé avec une administration d'État omniprésente, omnipotente, non seulement n'est pas garante de l'efficacité, mais en plus, en réalité, crée énormément de lourdeur et d'inefficacité. Voilà, quand on le compare à l'exemple allemand, qui est un État fédéral, on voit que ce sont vraiment deux modèles différents, deux États qui ont géré la crise sanitaire de façon différente. Et force est de constater qu'en Allemagne, il y a eu moins de décès qu'en France. Voilà, parce qu'il y a en effet deux politiques différentes. D'abord, ça s'explique au niveau par les choix politiques qui ont été faits par les deux États. La France consacre un énorme budget à la santé, mais une grande partie de ce budget est greffé par l'administration. Je pense notamment à l'ARS, alors qu'en Allemagne ça n'existe pas. Ce sont les Länder, c'est-à-dire les régions qui sont autonomes, qui ont cette compétence. Et ensuite, l'argent public a été investi vraiment dans la santé et non dans l'administration, contrairement à la France d'une part. Et d'autre part, le Covid est un phénomène qui a touché les personnes individuellement en fonction des âges et en fonction des territoires de façon très différente. On a vu que c'était un virus qui touchait essentiellement les personnes âgées. Bon, même la publicité de l'État le dit, hein, 80% des personnes qui sont décédées du Covid aient plus de 70 ans. Donc c'est-à-dire que ça ne touche pas les personnes de la même façon. Donc c'est un virus qui a une approche différenciée à titre des individus.
Et qui a mis en lumière aussi les grandes disparités de logements qu'il peut y avoir sur le territoire.
Oui, absolument. Ça, c'est un autre phénomène. Et on a vu que le virus ne s'est pas propagé de la même façon sur l'ensemble du territoire. Bon, et pour cause, le virus étant transporté par les individus, c'est le produit des flux et des territoires qui sont moins impactés par les mouvements de population que d'autres. Enfin, les zones rurales, par définition, sont moins touchées que les zones urbaines. Et de facto, ce sont essentiellement les zones urbaines qui ont été touchées, ou en tout cas les zones fortement peuplées comme l'Alsace. Le problème, c'est que comme la France n'est pas capable de penser la différenciation, la France, quand elle prend une mesure, elle doit s'appliquer de façon universelle à l'ensemble du territoire. Alors que l'Allemagne, qui est un pays fédéral, a géré le Covid lande par lande, c'est-à-dire région par région. La France a essayé de confiner. Or, de la Corse jusqu'à Lille et de Brest jusqu'en Alsace, on confine. Alors qu'il y a des territoires, je pense notamment à des territoires comme la Corrèze, qui ont été très peu impactés, voire pas impactés, qui ont subi totalement le confinement, alors que certainement il aurait été possible d'envisager une gestion différente. En tout cas, ce que nous disons, c'est que on ne peut pas prendre une décision de ce type-là sans associer les territoires. Or, toutes les décisions qui ont été prises de façon unilatérale par l'État. Et quand je dis l'État, ça s'est fait essentiellement sur le bureau du président de la République.
Parlez-nous un petit peu des invités que peut-être vous allez aller voir particulièrement pendant le congrès qui va se dérouler du 21 au 23 août.
Alors, je dirais, moi, il y a un nom qui me... Il y a un invité qui me tient à cœur dans la première table ronde, c'est José Nubo. Pas que parce qu'elle est occitane, mais surtout parce qu'elle est ethnobotaniste. C'est-à-dire que la première table ronde est consacrée au concept de résilience territoriale. C'est-à-dire la résilience, c'est un concept qui est dans l'air du temps. C'est-à-dire ce qu'on entend par résilience, en fait, c'est l'adaptation de l'homme à une situation et à son évolution, notamment en période de crise. Voilà. En complément de ce concept, il y a la résilience territoriale, qui veut dire quelque chose de très particulier. En l'occurrence, c'est l'adaptation de l'homme à son territoire. Or, quand on pense résilience, et notamment de transition écologique, pour nous, forcément, ça veut dire résilience territoriale. Il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas d'adaptation de l'homme à son environnement. Et les cultures régionales ne sont ni plus ni moins que de la résilience territoriale. Les architectures sont différentes d'une région à une autre, parce que traditionnellement, l'homme a adapté son mode de vie aux contraintes environnementales. Prenez une maison bretonne et prenez une maison provençale, elles sont radicalement différentes. Ou alors une maison alsacienne. Toutes ces maisons-là sont différentes.
Vous parlez du bâtiment ou vous parlez des foyers ?
Non, je parle du bâtiment. Je parle du bâtiment. Mais ça vaut également au niveau de l'agriculture, par exemple. L'agriculture provençale, c'est une agriculture qui a été marquée par les contraintes géographiques, qui a fait naître ce qu'on appelle les restanques, c'est-à-dire une architecture en escalier. Vous voyez, donc ce sont des petites surfaces, forcément qui n'est pas du tout adaptée à l'agriculture intensive d'aujourd'hui. Bon, la Bretagne est un territoire qui est quand même beaucoup plus plat, qui se prête davantage à un modèle, on va dire, un peu plus industriel. Et pour cause, aujourd'hui, la Bretagne s'est spécialisée dans l'industrie agroalimentaire.
Alors, ces thèmes-là, on va en parler justement pendant ce congrès-là. Et puis, sans doute aussi des productions qui peuvent être énormes, comme en Bretagne.
Oui, absolument. En face de la question sanitaire se pose celle de la transition écologique. La crise sanitaire a mis en évidence un autre phénomène qui est celui de la mondialisation. Mondialisation des échanges et de la dépendance à certains États. Prenez le Doliprane aujourd'hui, il est fabriqué en Chine. Prenez les masques alors qu'en Bretagne, il y avait une usine de production qui a fermé. On fait venir de Chine des masques. Enfin, c'est un système totalement aberrant. C'est-à-dire qu'il faut repenser totalement le monde d'après qui a commencé dès aujourd'hui en partant du territoire. Évidemment, la question de la transition écologique est centrale, parce qu'il n'y a pas de monde durable si on ne tient pas compte de l'environnement. Et forcément, toutes les décisions qui doivent être prises en tenant compte du territoire, en partant des territoires. C'est-à-dire que pour nous, je vais reprendre là une fameuse formule employée par le député RPS Paul Molac, le décideur public doit être à portée d'engueulade. Aujourd'hui, ce qui décide essentiellement dans les territoires, notamment pendant la crise sanitaire, c'est le préfet. Devant qui le préfet est responsable ? Certainement pas devant les électeurs. Le préfet, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas tenu de ses décisions. C'est devant le Premier ministre uniquement. Nous, on considère que tout doit être fait de façon responsable. Et dans une démocratie, le décideur politique doit rendre des comptes devant les électeurs.